Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, on va commencer cette rencontre avec Juan Gabriel Vázquez. Donc, d'abord, je crois que vous allez lire un morceau du livre qui va paraître donc en août, qui s'appelle « Les livres des choses qui tombent ». Et voilà, donc Manuel et moi, nous avons lu l'ouvrage en espagnol. On va essayer de vous poser quelques questions sur ce qu'on a lu, ce qu'on a compris, ce qui nous a interpellés. Et puis après, on vous donnera la parole en faisant circuler un micro si vous avez des questions, des remarques, etc. Voilà.
Voilà, donc on va commencer. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus. Je vous présente le livre qui va sortir en septembre, avant-première de la couverture. Ben voilà. On est très fiers du livre. Chris et moi. Oui. Bon. El ruido de las cosas al caer. Le premier chapitre s'appelle Una sola sombra larga. El primero de los hipopótamos, un macho del color de las perlas negras y tonelada y media de peso, cayó muerto a mediados de 2009. Había escapado 2 años atrás del antiguo zoológico de Pablo Escobar en el Valle del Magdalena, y en ese tiempo de libertad había destruido cultivos, invadido abrevaderos, atemorizado a los pescadores y llegado a atacar a los sementales de una hacienda ganadera. Los francotiradores que lo alcanzaron le dispararon un tiro a la cabeza y otro al corazón, con balas de calibre 375, pues la piel de un hipopótamo es gruesa. Posaron con el cuerpo muerto, en la gran mole oscura y rugosa, un meteorito recién caído. Y allí, frente a las primeras cámaras y los curiosos, debajo de una ceiba que los protegía del sol violento, explicaron que el peso del animal no iba a permitirles transportarlo entero. Y de inmediato comenzaron a descuartizarlo. Yo estaba en mi apartamento de Bogotá, unos 250 kilómetros al sur, cuando vi la imagen por primera vez, impresa a media página en una revista importante. Así supe que las vísceras habían sido enterradas en el mismo lugar en que cayó la bestia, y que la cabeza y las patas, en cambio, fueron a dar a un laboratorio de biología de mi ciudad. Supe también que el hipopótamo no había escapado solo. En el momento de la fuga, lo acompañaban su pareja y su cría, o los que en la versión sentimental de los periódicos menos escrupulosos eran su pareja y su cría, cuyo paradero se desconocía ahora y cuya búsqueda tomó de inmediato un sabor de tragedia mediática, la persecución de unas criaturas inocentes por parte de un sistema desalmado. Y uno de esos días, mientras seguía la cacería a través de los periódicos, me descubrí recordando a un hombre que llevaba mucho tiempo sin ser parte de mis pensamientos, a pesar de que en una época nada me interesó tanto como el misterio de su vida. Durante las semanas que siguieron, el recuerdo de Ricardo Laverde pasó de ser un asunto casual, una de esas malas pasadas que nos juega la memoria, a convertirse en un fantasma fiel y dedicado, presente siempre. Su figura de pie junto a mi cama en las horas de sueño, mirándome desde lejos en las de la vigilia. Los programas de radio de la mañana y los noticieros de la noche, las columnas de opinión que todo el mundo leía y los blogueros que no leía nadie, todos se preguntaban si era necesario matar a los hipopótamos extraviados, si no bastaba con acorralarlos, anestesiarlos, devolverlos al África. En mi apartamento, lejos del debate, pero siguiéndolo con una mezcla de fascinación y repugnancia, yo pensaba cada vez con más concentración en Ricardo Laverde, en los días en que nos conocimos, en la brevedad de nuestra relación y la longevidad de sus consecuencias. En la prensa y en las pantallas, las autoridades hacían el inventario de las enfermedades que puede propagar un artiodáctilo y usaban esa palabra, artiodáctilo, nueva para mí. Y en los barrios ricos de Bogotá aparecían camisetas con la leyenda Save the Hippos. En mi apartamento, en largas noches de llovizna o caminando por la calle hacia el centro, yo comenzaba a recordar el día en que murió Ricardo Laverde, e incluso a empecinarme con la precisión de los detalles. Me sorprendió el poco esfuerzo que me costaba evocar esas palabras dichas, esas cosas vistas o escuchadas, esos dolores sufridos y ya superados. Me sorprendió también con qué presteza y dedicación nos entregamos al dañino ejercicio de la memoria, que a fin de cuentas nada trae de bueno y solo sirve para entorpecer nuestro normal funcionamiento, igual a esas bolsas de arena que los atletas se atan alrededor de las pantorrillas para entrenar. Poco a poco me fui dando cuenta, no sin algo de pasmo, de que la muerte de ese hipopótamo daba por terminado un episodio que en mi vida había comenzado tiempo atrás, más o menos como quien vuelve a su casa para cerrar una puerta que se ha quedado abierta por descuido. Y es así que se ha puesto en marcha este relato. Nadie sabe por qué es necesario recordar nada, qué beneficios nos trae o qué posibles castigos, ni de qué manera puede cambiar lo vivido cuando lo recordamos. Pero recordar bien a Ricardo Laverde se ha convertido para mí en un asunto de urgencia. He leído en alguna parte que un hombre debe contar la historia de su vida a los 40 años y ese plazo perentorio se me viene encima. En el momento en que escribo estas líneas, apenas unas cuantas semanas me separan de ese aniversario ominoso. La historia de su vida. No, yo no contaré mi vida, sino apenas unos cuantos días que ocurrieron hace mucho, y lo haré además con plena conciencia de que esta historia, como se advierte en los cuentos infantiles, ya ha sucedido antes y volverá a suceder. Que me haya tocado a mí contarla es lo de menos. Celo. El día de su muerte, a comienzos de 1996, Ricardo Laverde había pasado la mañana caminando por las aceras estrechas de la Candelaria, en el centro de Bogotá, entre casas viejas con tejas de barro cocido y placas de mármol que reseñan para nadie momentos históricos, y a eso de la una llegó a los billares de la calle 14, dispuesto a jugar un par de chicos con los clientes habituales. No parecía nervioso ni perturbado cuando empezó a jugar. Usó el mismo taco y la misma mesa de siempre, la que había más cerca de la pared del fondo, debajo del televisor encendido pero mudo. Completó 3 chicos, aunque no recuerdo cuántos ganó y cuántos perdió, porque esa tarde no jugué con él, sino en la mesa del lado. Pero recuerdo bien, en cambio, el momento en que Laverde pagó las apuestas, se despidió de los billaristas y se dirigió a la puerta esquinera. Iba pasando entre las primeras mesas, que suelen estar vacías porque el neón hace sombras raras sobre el marfil de las bolas en ese punto del local, cuando trastabilló, como si hubiera tropezado con algo. Se dio la vuelta y volvió a donde estábamos nosotros. Esperó con paciencia a que yo terminara la serie de 6 o 7 carambolas que había comenzado e incluso aplaudió brevemente una a 3 bandas. Y después, mientras me veía marcar en el tablero los tantos que había conseguido, se me acercó y me preguntó si no sabía dónde le podían prestar un aparato de algún tipo para oír una grabación que acababa de recibir. Muchas veces me he preguntado después qué habría pasado si Ricardo Laverde no se hubiera dirigido a mí, sino a otro de los billaristas. Pero es una pregunta sin sentido, como tantas que nos hacemos sobre el pasado. Laverde tenía buenas razones para preferirme a mí. Nada puede cambiar ese hecho, así como nada cambia lo que sucedió después. ¿Cómo está, Gatela?
Merci. Alors, moi, je voudrais commencer par évoquer donc, ce que vous racontez au début du livre, donc cet hippopotame qui s'échappe. Et donc, peut-être que ça peut prêter à sourire quand on lit, mais en fait, c'est une évocation à quelque chose de beaucoup plus tragique, en fait. La sombre de Pablo Escobar qui est évoquée en fait dans tout le livre. On va voir que les personnages l'évoquent plus tard et oui. Évoquent aussi des attentats qu'ils ont vécu tous les deux au même moment, mais ils n'étaient pas ensemble. Donc après, ils se demandent où ils étaient à tel moment, quand la Bonilla s'est fait tuer, quand Carlos Galán s'est fait tuer. Est-ce que pour les gens de votre génération, comment vous avez vécu ça, la Hacienda Nápoles? Est-ce que vous avez vu ça tout de suite comme quelque chose de marqué par le narcotrafic ou plutôt quelque chose d'un peu divertissant parce qu'on voit qu'il y a un zoo où les enfants voulaient aller en fait?
Oui, un peu les deux. Et voilà le conflit essentiel de ce qui est devenu un symbole dans le roman, les hippopotames. Moi, j'ai commencé à écrire le roman en 2008. Et au début, c'était l'histoire d'un pilote. Je commençais à écrire l'histoire d'une personne qui d'un moment à l'autre se met à pleurer en public, comme ça, dans une salle publique d'un centre culturel de Bogota qui s'appelle la Maison de la Poésie. C'était une image de mon époque universitaire, j'ai vu ça. J'ai fréquenté ce centre culturel où on peut s'asseoir gratuitement et mettre des casques. Des casques, on dit. Et écouter la poésie enregistrée. C'est un endroit magnifique. Je faisais ça souvent, je détestais le droit. J'étais en train d'étudier le droit, je détestais ça, je voulais devenir écrivain. Alors c'était une façon d'échapper à la réalité juridique de ma triste vie. Et un de ces jours, j'ai vu un homme qui était en train d'écouter quelque chose et qui a commencé à pleurer d'un moment à l'autre avec une énergie que je n'ai jamais vue. Et j'ai récupéré cette image en 2008 pour commencer à me demander, avec les instruments de l'imagination, les instruments de la fiction, qui est cet homme, pourquoi pleure-t-il de cette façon, qu'est-ce qu'il écoute surtout. Et c'était le commencement du roman. Je me suis mis à imaginer que c'était un pilote, un ancien pilote des narcotrafiquants, c'est-à-dire une des premières personnes à trafiquer avec de la drogue au début des années 70. Et j'ai fait quelques 100 pages sur cet homme-là. En faisant disons, la recherche fictive de cet homme. Et à un moment, je me suis arrêté parce que je me suis rendu compte que l'histoire ne me touchait pas, que j'étais en train d'écrire sur quelqu'un d'autre, et que l'histoire, que je ne trouvais pas le lien émotionnel avec ma vie. Et j'ai eu peur d'avoir perdu tout un an de travail comme ça, mais ça arrive souvent, romancier. Et à ce moment-là, comme une espèce de cadeau des dieux de la littérature, j'ai vu l'image de l'hippopotame dans une revue colombienne. L'hippopotame échappé du zoo de Pablo Escobar, qui avait été tué par des gens autorisés, tué parce qu'il représentait un danger. Et tout d'un coup, l'image de l'hippopotame m'a donné. D'une façon très très visuelle, m'a donné l'image ou bien le souvenir de ma propre visite au zoo de Pablo Escobar quand j'avais 12 ans, que j'ai fait sans que mes parents le sachent parce qu'ils n'auraient pas voulu que je mette les pieds dans le territoire d'un mafieux. Mais les eaux de Pablo Escobar étaient un destin touristique pour la Colombie. C'était un endroit vraiment exceptionnel, une excentricité d'un mafieux qui n'avait pas pourtant commencé à devenir les dangers publics à ce moment-là. On parle du début des années 80, oui. Juste avant qu'il assassine le premier de ses grandes victimes, un ministre de justice. Donc pour nous, c'était un mafieux excentrique qui avait construit cet endroit mythique presque, non? Où on pouvait trouver un kangourou, par exemple, qui jouait au foot, qui faisait assez bien. Et les gardiens de but colombiens allaient là pour se faire marquer un but par le kangourou de Pablo Escobar. Il y avait un perroquet qui savait par cœur les joueurs de la sélection colombienne de football. Et par là, à cause de ces souvenirs de ma visite, ma seule visite au zoo, je me suis mis à penser sur une époque qui n'avait jamais fait partie de mes souvenirs. Peut-être parce que je l'avais bloqué. Les années 80 ont été pour ma génération une transformation de notre vie très très radicale. On a commencé les années 80 dans une ville pacifique, disons, une ville tranquille, ou raisonnablement tranquille. Et on a fini les années 80 dans une ville en guerre. La guerre individuelle, personnelle que Pablo Escobar a menée contre l'État colombien et dans laquelle il a utilisé les citoyens comme une mesure, comme une manière de mettre de la pression. Mm-hmm. Alors, j'ai grandi à cette époque-là, j'étais un enfant quand les années 80 ont débuté. Et j'ai grandi pendant cette époque-là. Et j'ai grandi parmi les bombes, les assassinats politiques, ou bien les assassinats de politiciens, c'est plus clair. Et dans une ville où on avait peur tout le temps, où on s'est habitué à la peur, jusqu'au point de ne pas la sentir, d'adopter un certain nombre de stratégies pour vivre avec les risques d'une bombe, les risques d'un attentat, mais sans s'empêcher, sans que cela nous empêche de mener une vie qu'on croyait normale. Mmh. Et quand j'ai pensé à tout cela, je me suis rendu compte à quel point la vie de ce pilote de fiction que je venais d'explorer avait une relation avec les années 80 et par ce chemin avec ma vie, ma biographie. Mmh. Et je crois que c'est là le véritable point de commencement du roman.
Bon, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en fait dans les livres, on parle de cette génération marquée par la violence dans une époque très précise et dans un espace très précis, c'est Bogota justement,
oui.
Où il y a une époque où il y avait pas mal d'attentats justement. Donc c'est-à-dire que pour vous, c'était plus en train d'écrire les livres, ça a déclenché quelque chose dans vos souvenirs d'enfance ou d'adolescence, plus que c'était plus peut-être le fait de voir les hippopotames, plus que les souvenirs qui étaient derrière ou qui étaient avant. C'était pas une chose que ça faisait très longtemps que vous voulez écrire ou...
Non, au contraire. Les sujets liés à la drogue qui font la matière d'un tas de récits en Colombie, de feuilletons à la télé, de séries, de mauvais romans, de quelques bons romans. Moi, par contre, je ne suis jamais senti attiré par ce monde-là. Peut-être parce que j'ai quitté la Colombie, entre autres raisons, à cause de la violence, du terrorisme. Et alors, c'est, en quelque sorte, je l'avais poussé au fond de ma mémoire. Quand j'ai commencé à écrire les romans, j'avais passé 15 ans sans jamais penser aux bombes de cette époque. À l'accident souffert par un ami à moi qui s'est fait atteindre par une balle, plus ou moins comme le... Je suis sur le point de révéler quelque chose d'important. Le personnage principal, le narrateur, est à côté de ce type qui s'appelle Ricardo Laverde au moment où Laverde souffre un attentat. Et une de ces balles perdues atteint mon narrateur. Et c'est là le début de l'intrigue du roman. Mais je ne suis jamais senti attiré par ce monde. Je crois vraiment que c'est l'image de l'hippopotame et les souvenirs que ça a déclenché ce qui m'a donné le vrai intérêt. Je me suis rendu compte que je ne comprenais pas beaucoup de choses sur cette époque-là. Et les livres, justement, ont été toujours pour moi une façon de comprendre, d'explorer jusqu'à une certaine illumination, on va dire. Alors voilà, je passerai les mois suivants en train d'examiner ma mémoire. C'est de ce point de vue le livre le plus autobiographique que j'ai écrit. Non pas parce que mes expériences soient les expériences du narrateur, mais parce que mes peurs sont les peurs du narrateur. Je crois que le peur qu'on sent, ça fait partie aussi de la biographie, n'est-ce pas? Un récit sur nos peurs est aussi autobiographique qu'un récit sur nos expériences. Alors, oui, voilà.
Donc, en fait, ce que vous disiez, le personnage d'Antonio, donc il se fait tirer dessus, en fait, il a lui aussi besoin, en fait, de revenir sur son passé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a besoin de revenir sur le passé de quelqu'un d'autre pour se retrouver lui-même, en fait. Donc, en retraçant la vie de son ami qui s'est fait tuer, en fait, à côté de lui, et ça va l'aider à sortir de sa solitude parce qu'il n'arrive pas à communiquer, que ce soit avec sa femme ou avec les autres. Donc il a besoin de revenir, en fait, c'est autant une histoire humaine qu'une histoire de la Colombie, finalement, parce qu'on revient sur certains événements qui ont marqué Ricardo, et donc...
C'est peut-être parce que je suis un peu obsédé par cette stratégie narrative d'avoir un narrateur qui fait une enquête sur une vie qui n'est pas la sienne pour comprendre quelque chose sur sa propre vie. Peut-être parce que c'est mon comportement dans la vie quotidienne. J'ai passé les dernières années, depuis mon premier roman vrai, mon premier roman que j'apprécie, disons, Les Dénonciateurs, j'ai passé ma vie à poser des questions aux gens en Colombie sur des événements que je n'ai pas vécu, mais que je sais que ces événements m'ont produit de quelque sorte. Je suis la conséquence de l'histoire récente colombienne. Et aussi des événements que j'aurais pu vivre, mais ayant quitté la Colombie quand j'avais 23 ans, je n'ai pas vécu. Alors, chaque fois que je vais en Colombie, c'est comme une longue interview avec l'histoire du pays. Et le résultat, parfois, est un roman. Parfois, c'est justement me libérer de certaines curiosités malsaines, la plupart des fois. Mais parfois, ça aboutit à un roman. Et c'est une façon extrêmement thérapeutique, on dit. C'est-à-dire, c'est beaucoup moins cher que qu'engager un psychologue beaucoup plus riche.
Et ceci dit... Du point de vue littéraire, comment c'était pour vous d'écrire un roman qui, d'une certaine façon, représente la réalité ou une certaine période de l'histoire de la Colombie, un sujet justement de la violence, les trafics des drogues, etc., qui a déjà été pris plusieurs fois par plusieurs écrivains.
Mais justement, je n'ai pas voulu représenter la réalité colombienne. Ni la reproduire. Je trouve que cela a déjà été fait, et parfois très bien, par le journalisme et par l'historiographie récente. Et une des raisons les plus fortes pour écrire les romans, c'était justement qu'un roman comme ça n'avait pas été écrit en Colombie. C'est-à-dire que si je voulais avoir des informations sur la période des bombes, sur la période du terrorisme, sur l'histoire du trafic de drogue, les origines, tout ça est bien disponible dans les médias. On peut trouver n'importe quoi aujourd'hui avec l'Internet, dans les archives des grands journaux colombiens, même à YouTube, si on le veut, on peut voir l'assassinat de Luis Carlos Galán, un candidat présidentiel colombien qui a été tué par Pablo Escobar en 99. Tout est là, tout l'aspect extérieur de cette époque de terrorisme et de violence est là, tout est disponible. Mais les émotions ne le sont pas. les émotions sont nulle part. On n'a pas un archive des réactions morales, émotionnelles des gens. Et je crois que c'est là que le roman a quelque chose à dire. Le roman est une espèce... Moi, j'écrivais ce roman et je me sentais un peu comme un historien des émotions. Quelqu'un qui fait un recueil des conséquences internes, des conséquences morales de cette époque-là pour les gens. Et oui, voilà.
Et ce que je trouve intéressant justement dans les livres, c'est qu'il y a plusieurs épisodes justement, plusieurs faits qui, moi personnellement, je ne connaissais pas, qui ont toujours une relation avec l'histoire et avec les personnages de l'histoire.
Oui.
Donc pour vous, je pense que c'était quand même un travail de recherche aussi. Je ne sais pas si vous étiez au courant de, justement de tout, tous ces faits. Et on parle des accidents, des attentats, etc.
Ça m'a beaucoup étonné quand j'écrivais le roman de me rendre compte que je savais tout ça. Quand j'écris Les Dénonciateurs, quand j'écris Histoire secrète du Costaguana, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Pour Histoire secrète du Costaguana, j'ai dû lire 50 livres pour en écrire un, ce qui me paraît un peu injuste. Mais c'était des époques qui ne correspondaient pas à mon expérience. Avec celui-là, je me suis rendu compte que tout était dans mon imaginaire. Je connaissais ces événements. J'ai dû faire une petite recherche pour trouver des précisions. Combien de gens est-ce qu'ils sont, combien de gens ont été tués dans un certain attentat, etc. Les dates, peut-être, les dates s'est mélangées dans ma tête. Mais je connaissais tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point tout ça m'avait marqué, avait vraiment rythmé mon expérience d'adolescent, mon passage, disons, de l'enfance à la vie adulte, ce qui est devenu un des sujets du roman. Comment la vie dans un endroit atteint par le terrorisme passe par une révélation très inconfortable. Et c'est l'idée qu'on n'a plus de contrôle sur sa vie immédiate, qui est pourtant la première chose qu'on apprend quand on devient adulte. On devient adulte et on nous dit, à partir de là, vous êtes le maître de ce qui va vous arriver. Et vous êtes responsable de ce que vous faites et vous êtes obligé de faire avec les conséquences de vos actes ou quoi que ce soit. Eh bien, quand on grandit avec le terrorisme, tout ça est complètement faux. On cesse de contrôler sa vie, on cesse d'être responsable de ce qui va arriver. Et c'est une perte. Très étrange. Et c'est devenu alors un des sujets du roman.
Est-ce que, donc on voit que donc le personnage d'Antonio essaie de se reconstruire et donc peut-être qu'il n'arrive pas parfois à identifier pourquoi il a ce problème en fait. Il y a peut-être un sentiment d'incompréhension face à ce qui lui arrive en fait.
Oui.
Et ça pourrait peut-être se rapprocher à pas forcément la violence en Colombie, mais peut-être à d'autres pays, où, je pense en Espagne par exemple, où il y a aussi du terrorisme, au moins maintenant, mais où il peut y avoir d'autres personnes dans cette situation.
Oui, oui. Oui, non, j'en suis sûr. D'ailleurs, le livre a été publié d'abord en Espagne, et puis il a gagné un prix qui est un prix un peu particulier. Qui oblige l'écrivain à aller dans les 22 pays de la langue espagnole pour parler du livre. Et pendant ce tour, je me suis rendu compte que les événements de mon livre, qui était très colombien, parlaient pourtant d'une réalité assez répandue à la fin du XXe siècle. La réalité du terrorisme est quelque chose qui a touché presque tous les grands pays de l'Amérique latine et l'Espagne aussi. Alors les gens comprenaient immédiatement de quoi je parlais. La sensation de la peur, la sensation de l'incertitude, c'était des émotions très reconnaissables pour les lecteurs. Le Mexique passe maintenant par une période de violence extrême comme celle qu'on a vécue en Colombie aux années 80. Les Espagnols, les lecteurs espagnols se souvenaient immédiatement des années plus fortes d'État. Les Péruviens, des années de Sendero Luminoso, l'organisation terroriste de Abimael Guzmán. Et tout le monde savait ce que c'était de marcher par la rue sans la certitude qu'on va arriver chez soi. En Espagne, justement, mon expérience espagnole a nourri l'écriture du livre, parce que pendant l'écriture, on a découvert de possibles attentats d'Al-Qaïda dans le métro de Barcelone. Et j'ai vu à quel point le visage des gens changeait, comment les gens se regardaient dans le métro après que l'attentat a été découvert, le projet d'attentat a été découvert. Et j'ai vu à quel point ça ressemblait à ma propre expérience en Colombie. Se méfier d'une chose aussi abstraite qu'une ville, se méfier de la ville. C'était quelque chose de très familier pour les lecteurs espagnols à cause de cela. Et je crois que c'est en partie une des raisons pour lesquelles le livre a réussi à parler aux lecteurs quand il est apparu en espagnol.
Donc, vous dites que parfois les livres parlent de politique sans faire de politique.
Oui.
Mais est-ce que vous pensez, enfin, il y a toujours un côté engagé, est-ce que vous cherchez quand même à dévoiler certaines choses, à convaincre de... Parce que vous prenez toujours les événements d'un certain angle, donc vous allez toujours vers une explication. Est-ce que vous essayez de convaincre quand même
Non. Dévoiler, c'est un mot que j'aime, mais convaincre, je n'aime pas. Je ne crois pas que le métier du romancier soit de convaincre. Mm-hmm. Je crois même qu'un roman, c'est un des très rares endroits de notre vie contemporaine où personne n'essaye de nous convaincre de quoi que ce soit. Mm-hmm. Et je me sens en valeur. J'apprécie qu'un romancier n'essaye pas de me convaincre de ses idées privées. D'un côté, parce que les bons romans sont toujours plus intelligents que leur auteur. Et de l'autre côté, parce que je crois que la vie est une lutte contre les gens qui essayent de nous convaincre toujours de tout. Les politiciens essayent de nous convaincre de voter par eux. Les églises essayent de nous convaincre de croire à leur Dieu. La publicité essaie de nous convaincre d'acheter leurs produits. Le roman est un territoire de liberté de ce point de vue. Un territoire de liberté où personne essaye de nous convaincre. Et mon but, c'était plutôt d'explorer. Explorer, essayer de comprendre. Mais aussi, et voilà le côté plus engagé, disons, éviter l'oubli. Éviter que quelques événements soient oubliés par... hundidos, Isabelle, enfoncés dans l'oubli par la version intéressée de l'histoire que nous arrive parvois par les médias, par la version officielle, disons. La découverte, par exemple, dans le roman, la découverte pendant l'écriture, ou disons l'intuition de la participation des corps de la paix américains dans les débuts du commerce de la drogue en Colombie, c'était une révélation pour moi. Après la publication du roman, j'ai découvert que je ne m'étais pas trompé. Et par là, j'ai l'espoir que le roman soit une espèce de barrière contre l'oubli de ces choses-là. Alors, je crois que c'est une des choses les plus nobles que la littérature peut faire.
Oui. Alors justement, vous avez dit récemment qu'un de votre but, en fait, un de votre propos quand vous écrivez, c'est justement, je vous cite, multiplier les versions de notre histoire, explorer les cicatrices laissées. Et dans ces romans, c'est vrai que c'est à la fois métaphorique et c'est littéral aussi. Dans l'histoire, il y a justement le personnage Antonio qui essaie de chercher, essaie de savoir pourquoi ça lui est arrivé, ce qui lui est arrivé, c'est quoi les raisons. Et en même temps, est-ce que c'était votre but aussi de faire une métaphore par rapport à l'histoire de la Colombie ou l'histoire de la violence qui a commencé depuis trop longtemps? Jusqu'ici, on a toujours des, enfin, il y a toujours des questions dont on ne connaît pas la réponse, et surtout les victimes, ils ne connaissent pas la réponse. La question de la vérité, justement, de savoir pourquoi c'est passé, qui était derrière tout ça, même si pour certains événements comme les attentats, ou les attentats, enfin, dans les livres, on sait très bien qu'il n'y a pas l'histoire qui est derrière, mais il y a l'histoire de la violence, c'est aussi c'est la participation de, justement, de la classe politique. L'armée, les guerriers, etc. Donc, est-ce que pour vous, est-ce que c'était un des votre buts aussi
Oui, je veux dire oui, mais je n'ai jamais oublié un roman, c'est pas du journalisme, c'est pas de l'historiographie. Un roman doit non pas reproduire ce qu'on sait, mais donner au lecteur ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que pour moi, il n'y aurait pas de justification d'écrire un roman si j'allais donner au lecteur ce qu'ils peuvent trouver déjà dans le journalisme ou dans l'histoire. La justification d'un roman, c'est justement dire quelque chose qu'on ne pourrait pas trouver si le roman n'existe pas. Et parfois, je peux faire ça en révélant des choses que personne ne sait de l'histoire colombienne. Et parfois, c'est l'enquête intime, disons, privée, que je fais dans la vie d'un personnage et qui donne au lecteur, disons, qui fait cadeau au lecteur de quelque chose que le lecteur ne peut pas trouver ailleurs, l'expérience intime de ces années-là. J'ai toujours cru de toute façon que c'est pas pour devenir politique tout d'un coup, mais une démocratie est plus forte dans la mesure où elle sait accepter plusieurs versions de son histoire. Et on cohabite toujours avec une version, la version de l'histoire qu'on lit dans les livres, la version avec laquelle on grandit. La littérature en partie est là pour confronter une version personnelle, une version intime, à la version publique des faits donnés par ceux qui écrivent l'histoire, soit les historiens, soit le gouvernement, qui est aussi un grand narrateur, comme je dis souvent, un grand raconteur de bêtises, la plupart des fois. Alors, l'écrivain est là pour résister la version monolithique d'une certaine histoire. Et ça, c'est, je crois, le côté plus engagé du roman. La volonté de ne pas oublier quelque chose que certains ont déjà oublié.
Est-ce que vous pensez, du coup, que la littérature peut être un contre-pouvoir, en fait, vous avez parlé de langage monolithique dans la littérature, il y a beaucoup de romans qui sont polyphoniques, où où il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas une version, en fait, comme vous disiez, et que, de ce fait, la littérature peut permettre de contrecarrer un discours en... Par exemple, bon, pas forcément en Colombie, enfin, moi j'avais l'exemple en Argentine, de la littérature a pu exister sous la censure, par exemple, et donc a permis de faire vivre une voix face à un dictateur, par exemple.
Oui.
Peut-être que parfois la littérature permet de faire un contre-pouvoir, même si elle n'a pas de conséquences directes sur l'histoire, en fait.
Elle n'a jamais de conséquences directes. Mais il suffit de donner aux gens la perception multiple de la réalité, de sortir de la version unique qu'on essaye de nous imposer, de quoi que ce soit. Et surtout dans des pays qui ont subi des dictatures, comme il a été très fréquent en Amérique latine pendant le XXe siècle. Les booms latino-américains, ce qu'on appelle les booms latino-américains, Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, vous savez qu'ils ont presque tous écrit un roman sur la dictature. Ils ont réinventé le personnage du dictateur latino-américain pour essayer de mieux le comprendre, bien sûr, pour essayer de mettre une sorte de résistance contre le pouvoir, l'omnipotence, disons, d'un dictateur. Et c'est ainsi que García Márquez a écrit le oui, comment s'appelle ça ?
L'automne du patriarche.
L'automne du patriarche. Et Vargas Llosa a écrit Conversation dans la cathédrale. Carpentier a écrit le discours de la méthode. Et c'est devenu un endroit commun, un lieu commun de la littérature latino-américaine. Et je crois que c'est une excellente preuve de la façon indirecte, toujours indirecte, mais très pertinente de enrichir, ou disons libérer nos expériences et nos consciences de la pensée unique, on va dire. Oui, voilà.
Et donc parfois donc l'introduction de la fiction dans les romans, je lisais dans un de vos livres que vous disiez que ça permettait d'avoir au moins une fois une histoire entière, hein, d'avoir le début et la fin, de savoir ce qu'il en est, ce qui n'est parfois pas le cas dans la réalité. Comme les attentats, ça nous arrive et puis on ne sait pas. Bon, on peut savoir que c'est par exemple Pablo Escobar ou enfin contre, mais finalement on ne sait pas les raisons. Alors que dans un livre, parfois ça, c'est agréable de tout savoir, en fait, d'avoir un tout englobé.
Mais c'est une d'abord, c'est pas mon idée. C'est Javier Marías qui a dit ça. D'abord, peut-être que je l'ai plagiarisé. Mais c'est Javier Marías dans un discours formidable qui parle de ce sens d'ordre et de finalité qu'on reçoit des grandes fictions. L'idée que notre expérience a un ordre et par là une qu'est-ce qu'on avait dit hier, signification,
signification,
ça existe, pardon, j'ai toujours peur de réinventer la langue française quand je parle. La fiction fait ça, la bonne fiction, un bon roman de Tolstoï, de Dostoïevski, de Stendhal ou de Flaubert, et même de Joyce ou Musil ou Malraux ou Camus, nous donne l'impression que l'expérience est complète, même s'ils sont des romans consciemment ouverts, n'est-ce pas. L'expérience a une finalité, a un ordre, là ça signifie quelque chose, et c'est une des raisons pour moi. Enfin, c'est une des meilleures raisons pour lire des romans. Utiliser le roman comme une sorte de résistance contre le chaos de l'expérience, l'entropie, on va dire, la tendance que tout a à se, la tendance au chaos, n'est-ce pas ?
Est-ce que, bon, par rapport au titre du roman, Les bruits des choses qui tombent, comment vous avez fait pour choisir ce titre? On apprend assez tôt dans les livres que les bruits des choses qui tombent, c'est par rapport à un avion qui s'écrase.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a
oui.
d'autres choses
derrière? Oui, c'était le. C'était le sens littéral du titre, cet avion qui s'écrase. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui écoute un enregistrement, c'est l'enregistrement d'une boîte noire, c'est comme ça en français. Et dans la boîte, je veux dire, c'est l'enregistrement d'un accident. Alors, le bruit des choses qui tombent, c'est d'abord ça. Mais à mesure que j'écrivais le roman, je me suis rendu compte que ça le roman commençait à parler des chutes métaphoriques aussi. Non pas les chutes littérales, la chute littérale d'un avion, mais la chute aussi d'un couple, de la vie d'un couple. Mm-hmm. Le narrateur avec sa femme, d'une famille, et la chute d'un pays, la Colombie, qui pendant les années 80 est tombé beaucoup de fois à cause du terrorisme, à cause de la violence, à cause du trafic de la drogue. Et le titre, comme ça, a gagné un autre sens. J'adore quand ça arrive, naturellement. J'adore quand ça arrive, je veux dire, à l'écrivain, de trouver qu'une belle phrase qui sonne plus ou moins bien devient aussi une métaphore, s'enrichit. Parce que comme ça, le sens du titre va changer pendant la lecture. Et c'est une expérience magnifique quand ça arrive. Dans un roman de Javier Marías, ça arrive souvent, le titre change pendant la lecture et c'est une petite satisfaction de lecteur qu'on a. Et j'ai voulu donner ça aussi.
Et justement, bon, les bruits des choses qui tombent, on sait que c'est une société qui tombe.
Oui.
Et spécifiquement dans cette histoire, quand vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez de votre génération dans un moment très précis. Est-ce que vous avez pu peut-être dans les années récentes peut-être avoir une sensation, une espèce d'idée de comment les nouvelles générations vivent la réalité actuelle en fait en Colombie?
Non, je ne sais pas. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je sais que les nouvelles générations ont vécu leur propre version de la violence colombienne.
Oui, justement parce que c'est pas la même réalité qu'il y a 10 ans.
Et c'est pas la même violence.
C'est
oui. Et s'il y a quelque chose qui pour moi a séparé l'histoire colombienne de l'histoire des autres pays d'Amérique latine, c'est ce talent mystérieux de la violence pour se renouveler, pour se réinventer au cours du XXe siècle. On n'a jamais subi la même violence deux fois. Mais le XXe siècle en Colombie a eu, sauf peut-être 15 ans, aux années 30, 5 ans, aux années 70 ou 10 ans, on était toujours marqué par la violence. La violence politique, la violence entre partis politiques, la violence religieuse, la violence liée au trafic de la drogue et la violence, la petite violence de tous les jours. Ça marquait nos vies et la sa capacité
de se transformer,
de se réinventer, de se renouveler m'a toujours étonné. Et je suis sûr que c'est la perception que les gens des générations les plus récentes ont aussi. Mais je ne sais pas comment ils la sentent et comment ils peuvent l'imaginer. J'espère qu'il y aura des romans qui vont m'expliquer cela.
Oui.
Peut-être on va vous donner la parole si vous avez déjà une question. Alors attendez le micro.
Non,
c'est pour l'enregistrement en fait.
D'accord.
Votre question.
Oui, donc, vous avez parlé de la façon dont votre ouvrage a été a rencontré des échos en Espagne et dans différents pays d'Amérique latine. J'aurais aimé savoir comment spécifiquement en Colombie votre ouvrage a été reçu.
C'est toujours risqué de dire ça, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'il y a, comme une voile entre l'écrivain et la vraie réception de son œuvre dans la société décrite dans l'œuvre. Mais je crois que le roman a rempli un vide, dans le sens où le trafic de drogue fait partie de nos histoires de fiction de tous les jours. Comme je disais, dans les feuilletons, dans les séries télé et dans les romans, les bons et les mauvais. Mais si ce n'est pas trop arrogant de le dire, je crois que jamais personne n'avait écrit un roman aussi intime sur les conséquences morales, émotionnelles de cette époque, sur ce qui se passe dans l'âme, disons, pour manque d'un autre mot. Dans l'âme d'une génération de ces personnages. L'effet de la peur, l'effet de vivre dans l'incertitude qui est le résultat nécessaire du terrorisme, l'effet que cela peut avoir sur l'âme, sur les émotions, sur la moralité des gens. Et je voulais explorer tout ça. Et je crois que les gens se sont rendus compte. Et bon, d'après ce que j'ai reçu comme commentaire, ça a comblé un besoin de quelques lecteurs, en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Ce qui me rend d'ailleurs très heureux, évidemment.
Que justement, moi personnellement, je viens de Bogota comme vous, et l'histoire, ça se passe à Bogota déjà, enfin la plupart des faits en tout cas,
oui,
ou une grande partie, et j'ai trouvé plusieurs endroits que je connais bien, et des succès que je m'en souviens peut-être moins, mais je me suis retrouvé un peu aussi dans l'histoire, même si c'est pas ma génération. Et est-ce que est-ce que d'une certaine façon, c'est, je pense que les gens de Bogota se retrouvent en fait un peu, peut-être plus que les gens qui habitent dans la campagne où la violence est, de toute façon c'est différent. Je ne sais pas si vous savez si vous avez eu quelques retours des gens.
Il y a une certaine qualité de la violence décrit dans le roman qui est complètement urbaine, n'est-ce pas? Le sujet du roman, du point de vue politique, du point de vue de l'histoire colombienne, n'est pas n'importe quelle violence, c'est la guerre que Pablo Escobar a déclarée contre Bogota, comme siège du gouvernement, comme l'endroit où les décisions sur le trafic de drogue seraient prises. Alors, c'est là qu'il fallait mettre les bombes. Il y a des choses que j'ai découvert pendant l'écriture du roman. C'est un enregistrement que je ne connaissais pas, qui était secret d'ailleurs, confidentiel, je ne sais pas, de Pablo Escobar qui discutait avec ses lieutenants sur la stratégie qu'il fallait prendre à Bogota. Et il disait: on va mettre des bombes partout, on va tuer tout le monde, et comme ça on va créer autant de chaos que le gouvernement va être obligé de négocier. C'était son but à lui. Après que le gouvernement ait déclaré son intention de passer une loi d'extradition par laquelle les trafiquants colombiens seraient jugés aux États-Unis et non pas en Colombie, dont les juges ils pouvaient tuer ou acheter. Après ça, les trafiquants ont eu tellement peur que le terrorisme a commencé comme une façon de mettre de la pression sur les gouvernements pour ne pas passer à cette loi. Ça commençait comme ça. Et ses intentions à Pablo Escobar, très claires, déclarées par lui-même, c'était de créer un tel chaos social que les gouvernements seraient obligés de s'asseoir pour une négociation. Et je ne me souviens plus pourquoi je vous raconte tout cela. Mais j'allais quelque part, je suis sûr. Oui, ah, oui. C'était l'illustration de... C'était pour illustrer à quel point la ville est protagoniste dans le roman. Parce qu'il s'agit de raconter la guerre que Pablo Escobar a menée contre la ville. Non pas dans le reste de la Colombie, parce qu'il y a eu des bombes à Medellín, il y a eu des assassinats un peu partout. Mais la violence de Bogota, dans laquelle j'ai grandi, était le sujet. Alors oui, c'est la ville devient aussi une sorte de personnage de ce point de vue.
Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, moi, j'ai posé une question. Donc on a parlé beaucoup du côté historique, en fait. Mais quand on lit le livre, enfin moi personnellement quand j'ai lu le livre, il y avait ce côté historique, mais c'était aussi pour moi deux histoires d'amour en fait. Oui. Au centre, c'est vraiment donc l'histoire d'amour, parce qu'il y a des flashbacks en fait, donc l'histoire d'Hélène et Ricardo. Donc ça c'est un gros morceau du livre où voilà, là vraiment il y a le trafic de drogue qui est un peu plus expliqué, et il y a en même temps en parallèle l'histoire d'amour entre Antonio et Aula. Et donc, l'aspect, comme vous disiez, humain est quand même assez important. Et donc, c'est vraiment un mélange des deux, en fait. C'est,
oui.
L'amour, enfin, l'histoire de la blessure d'Antonio et en même temps les histoires d'amour sont au centre du livre.
C'est ce qui est plus important, je trouve.
Moi, oui,
c'est,
oui, bien sûr.
C'est ce que le roman peut offrir. Qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Oui. C'est justement les conséquences dans la vie intime des gens de ces expériences publiques. Et c'est vrai, les romans est une double histoire d'amour. C'est ce qui est essentiel. Et le vrai centre du roman est la façon dont nos relations intimes, en particulier une relation d'amour, parce qu'il y a aussi des relations entre... père-fils et amitié, père et fille, plutôt. Mais la façon dont ça change quand une relation est soumise à la pression du monde extérieur. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé. Dans les autres romans, ça se passe comme ça aussi. C'est le moment où l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, entre dans nos chambres. Et nous change, et change la façon, change notre façon d'aimer, notre façon d'être mari, notre façon d'être père ou fils. Voilà ce qui m'intéresse, vraiment. C'est encore Balzac, le roman est l'histoire privée des nations, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de plus clair. Alors oui, je suis content que vous l'ayez découvert.
Est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être?
Sinon, on peut s'arrêter là.
Oui. Merci.
Merci à vous.
Merci. Merci.